micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Oh, la petite ch'touf.
Trompez vite. Il n'est pas fait toi ici.
Justement, les touristes d'abord.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h, nous sommes lundi, et comme tous les lundis, ben non, parce que la semaine dernière, il n'y en avait pas. Mais comme un lundi normal, c'est le... le moment que vous attendez tous, le moment d'écouter le meilleur du comics, du manga et de la bande dessinée, parce que par la magie des ondes, nous allons envoyer directement dans vos esprits les plus belles images que nous avons pu lire ces quelques semaines. Ça va, mon cher Anthony? Tu es bien avec?
Je me sens un peu seul autour de la table pour le coup.
Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive?
Je suis tout seul avec toi.
Ah, c'est vrai. On a volatilisé... disséminé, parfumé, je sais pas, tous nos petits camarades.
Parfumé,
oui, pourquoi pas.
Eau de Tony.
Eau de Tony. Ah, il y a peut-être quelque chose. Si tu nous entends, Tony, le parfum.
Eau de poilu.
Eau de poilu. Ouais, alors je suis pas sûr parce que je sais pas si tu te rappelles que son personnage préféré dans Julio Biscotto, c'est le chien. Tu sais, celui qui pète tout le temps, donc je suis pas persuadé.
Ah,
enfin...
un produit dérivé.
Ah, Aude Roulion. Allez, j'espère que vous nous écoutez, que ce soit dans votre salon, en train de manger ou encore dans les bouchons en voiture, quoique ce soir, pas forcément. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Il est 19h02, vous êtes sur le 100.5 de Radio G, et on va parler bande dessinée. Avec plusieurs petites choses sympathiques. Oui. Alors, mon ami Anthony a ramené une BD.
Oui.
T'aurais pu ramener plus, hein?
Non. Voilà, sinon je vais niquer mes chroniques des semaines d'après. Ce serait dommage.
Moi, j'ai deux albums BD, deux mangas. On va pouvoir parler de plein de choses. Allez, on va commencer avec. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas pour nous.
Fais pas des fausses voix comme ça, voyons.
On va commencer avec un album. Alors, tu l'as lu, ça t'a beaucoup fait marrer, visiblement.
Bah, le titre, c'est Formica, une tragédie en trois actes. Alors, du coup, il y a tout un tas de pièces de théâtre absurdes qui me viennent à l'esprit.
Tu connais bien, bien entendu, le nom de l'auteur?
Fab Caro.
Fab Caro, c'est aux éditions Six Pieds Sous Terre, dans la collection Monotrem. Donc, c'est le nouvel opus de Fab Caro. Comment résumer ce bouquin? Vous connaissez, bien entendu le film Le Prénom.
Ça me dit quelque chose.
Alors, c'est une histoire de famille en fait qui finit par s'entre-déchirer puisque il parle du prénom du petit dernier qui vient de naître ou qui va naître, je ne sais plus. Et du coup, comme ils sont pas d'accord, la famille se déchire et implose, si je puis dire, dans cette discussion qui a, ma foi, beaucoup, beaucoup d'impact sur les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, dans cette famille. Eh bien là, c'est tout le contraire. C'est l'histoire d'une famille qui n'a absolument rien à se dire. C'est un repas de famille du dimanche, comme on peut en connaître beaucoup, où les gens s'installent et n'ont absolument aucun sujet de conversation.
Oh, c'est chier, ça.
Mais... là où c'est le talent de Fab Caro, c'est que ça va devenir un gag. On ne sait pas quoi dire. Et du coup, on va appeler la voisine pour savoir de quoi elle parle pendant ses repas de famille. La voisine, surtout, elle ne veut pas qu'on copie, alors elle ne va pas dire de quoi elle parle. Donc les gens, les protagonistes dans cette histoire vont essayer de sortir un petit peu les mots que la voisine pourrait essayer de convaincre la voisine de leur donner un sujet de conversation. Et c'est là tout le sujet de l'album. Quel est le sujet de conversation intéressant qu'on pourrait avoir lors d'un repas?
à savoir qu'on ne sait pas parler de choses. Alors bien sûr, ils vont tenter les sujets de conversation les plus probants, la politique, avec les échecs, la théologie, mais effectivement, il y a des petits soucis, puisqu'il y a un des personnages, par exemple, qui est nul à être raciste. Donc du coup, le sujet tombe à plat. Ça commençait bien, il commençait à parler des trucs, et le gars fait une blague censée être raciste qui ne passe pas, puisqu'elle n'est pas raciste au final, et ça tombe à plat, et le sujet de conversation retombe. Donc, tous les sujets de conversation qui peuvent être un petit peu tendus dans vos histoires, dans vos familles, dans vos repas, les choses qu'on évite d'aborder justement parce que ça fait tâche, là, elle ne les aborde même pas parce qu'il n'y arrive pas. Mais c'est assez particulier hein, comme album. Alors, moi je trouve que Fab Caro il est quand même beaucoup plus à l'aise quand ce sont que des petits sketchs. Donc là, l'histoire est un petit peu distendue. On l'a trouvé un petit peu plus en forme dans d'autres albums. Mais il y a plein de petits gags, de petites choses, des choses qui partent un peu en sucette. Notamment, alors, il mentionne une tragédie en trois actes. Il y a le chœur antique. Donc, tu connais un peu les structures de la tragédie ?
Non.
En fait, il y a le chœur qui, au début de chaque acte, va replacer l'histoire dans son contexte. Et c'est ainsi qu'on a des gens déguisés en grec antique qui viennent reparler et reparler de ce qui se passe dans l'histoire, mais de façon complètement incongrue. Ils s'installent carrément dans le salon pour discuter avec les gens qui sont là et ça fait bizarre. Sachant qu'il y a Jean-Luc ou Jean-Claude, je ne sais plus, qui lui n'a pas compris en fait la blague quand on lui a dit de venir déguiser en grec. Alors tu ne spoiles pas. Voilà.
Je crois que j'ai saturé le micro avec mon rire.
Mais complètement.
Ça m'a brillé les oreilles.
Alors, ça fait beaucoup rire, mon ami Anthony. C'est très drôle dans le livre. Il faut savoir que intercalé un petit peu dedans, on a aussi les péripéties de deux pilotes d'avion qui ont des petits soucis. Mais du coup, je vous laisserai comprendre pourquoi ça s'intègre dans le reste. Faut savoir que l'acte 2 est quand même hyper court. Puisqu'il comporte juste deux vignettes.
Ah oui, quand même.
Eh oui.
Mais c'est dingue parce que rien qu'avec la couverture, déjà, je me disais, bon, ça fait très pièce de théâtre absurde. Et pour le coup, en fait, tout ce que tu dis, ça vient confirmer ce que je pensais.
Ah, mais c'est complètement absurde. Alors là où je suis presque persuadé, c'est que ça ferait une pas si bonne pièce de théâtre que ça. Parce que du coup, il se passe pas grand chose au final. C'est de l'humour absurde.
T'as déjà vu En attendant Godot ou pas?
Oui.
Ah bah alors.
Ouais, remarque.
Niveau où se passe rien, c'est pas mal, non?
Alors, une petite mention. Alors, du coup, je vous gâche un petit peu quand même le spoil, puisque le cœur antique, à un moment, prend une pause. Et du coup, intellectualisation oblige, ça reste quand même un truc un peu intellectuel, une tragédie. Eh bien, le cœur antique discute d'une formation musicale comme il discuterait d'un match de foot. En disant, moi j'aurais bien mis le violoncelle en premier violon. Tu penses pas que j'ai plus les noms des personnages. Moi j'aurais mis Laminon en pointe et Poliakov à l'arrière en violoncelle. Ah, Poliakov, c'est une brêle. Il te fait que des staccato de Tarlouse. Et il parle d'une formation musicale classique comme s'il parlait d'un match de foot. Et ça donne un truc complètement, complètement barré. Enfin voilà. C'est un non-sens absurde, comme Fab Caro sait le faire. Alors du coup, il a une production qui est quand même un petit peu dense, parce qu'il sort presque 2 à 3 albums par an, hein, de mémoire.
Il bosse dur,
il envoie. Et du coup, ça reste quand même super drôle, même si moi j'ai un petit peu moins aimé que, par exemple, Les Si l'amour s'était aimé, ou encore, effectivement, son chef-d'œuvre, Zai 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 Zai.
Ah oui, tout à fait. Moi, ce qui me fait dire qu'en plus, ça serait peut-être facilement adaptable en pièce de théâtre, c'est que on est dans un huis clos.
Complètement.
Pour commencer. Et puis, je veux dire, le dessin de Fab Caro est quand même très réaliste. Donc ça collerait super bien. Enfin, moi, le premier truc, je vois très bien les mouvements et de visage se faire. Et là, ouais, j'imagine très très bien la chose adaptée en théâtre.
Là, surtout qu'en plus, son dessin, on se retrouve beaucoup avec des positions dignes de romans photo, en fait.
Oui.
Et du coup, ça donne un truc assez original. Là, on a plus de détails, on est moins dans l'abstrait comme on a pu l'avoir sur les visages ou sur d'autres choses, sur des albums précédents. Là, il y a plus de couleurs, il y a plus de travail, on va dire, sur les visages et les expressions que sur les albums précédents. Et du coup, ça donne une dimension encore un peu plus particulière.
Franchement, ouais, ça a l'air classe.
Allez, Formica, une tragédie en trois actes de Fab Caro. C'était aux éditions 6 pieds sous terre dans la connexion Monotrem. Allez-y, surtout que c'est pas très très cher. Par contre, vous pourrez rassurer hein, les parents, c'est pas ni un livre de cuisine, ni un livre rose, malgré la couleur de la couverture. Mais c'est plutôt, plutôt sympatoche.
Ouais.
Allez, je vais enchaîner. Hein. On va enchaîner, mais pas trop vite, parce que sinon on va aller trop vite. Parce que tu vois, on a 60 minutes et on a 1, 2, 3, 4, 5 albums. Ça veut dire que ça fait 10 minutes par album.
Il y a des pauses musicales.
Ouais, il y a des pauses musicales. Eh bah oui. Bah non, mais j'avais oublié les pauses musicales.
Ah oui, on va pouvoir gratter.
Non, mais effectivement, quand on n'est que 3, il faut absolument qu'on meuble un petit peu. Tu veux que je parle duquel en premier?
J'aurais tendance à dire de commencer par le plus pitoyable, histoire de...
Alors, on ne présente aucun album pitoyable, on ne présente que des choses qu'on a appréciées.
T'as raison, je suis méchant.
Soit neutre bon, d'accord?
D'accord, je suis neutre bon. Non, désolé, je suis trop méchant. Non mais, vas-y. Écoute, le dessin le moins inspirant...
On va parler de manga dans la foulée. On va parler de Sexy Cosplay Doll de Shinichi Fukuda. C'est aux éditions Big Kana. Alors, si vous ne l'avez pas deviné avec le titre, derrière, il y a un petit patch qui a été collé, dessiné, bien sûr, avec marqué « Attention, titre sexy ». Derrière, je ne vais pas vous faire le résumé, parce que ce n'est pas ma façon de faire, mais au moins la catchphrase. La phrase qui est censée vous attirer. Il y a marqué « Dites, vous pourriez vous retourner le temps que je me change ?»
Ça commence bien.
Alors, de quoi ça parle ? Sexy Cosplay Doll. Comment dire ? C'est un manga sur le cosplay, mais pas uniquement sur le cosplay, c'est un manga également sur la couture.
Oh.
Gojo, Wakane Gojo, c'est un jeune ado, adulte, il doit être encore au collège, son âge n'est pas déterminé, mais il est encore à l'école. Et sa passion, c'est les poupées traditionnelles japonaises, en fait. Il adore ces petites poupées, il leur parle, il les dessine, et surtout, il les façonne. De tradition, son grand-père s'occupait de ces petites poupées. Alors, il y a un nom exact, il faudrait que je vous redonne... Attendez, juste un instant, ne quittez pas, je suis toujours là. Non, ça a un petit nom. Eh bien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il aime bien ces petites poupées, en fait, qui sont dessinées maquillées à la main et dont les vêtements sont faits également à la main. Et parce qu'il a cette passion, parce qu'il a ce passe-temps qui prend une grosse, grosse partie de son temps, Gojo, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, qui passe le plus clair de son temps à être ignoré par les autres. Alors, ça a un nom hein, au Japon, ces enfants qui sont ostracisés dans leur classe parce que personne ne les apprécie. Et du coup, un jour, en fait, chez lui, il va casser sa machine à coudre qui tombe en panne. Donc le temps qu'il en ait une nouvelle, il va s'installer dans la salle de couture. Alors pour ceux qui ne savent pas, au Japon, il y a des ateliers, des clubs d'à peu près tout, dont des clubs de couture. Sauf que le club de couture de son école, c'est un club de couture qui est quasiment jamais utilisé. Et du coup, il peut utiliser tranquillement les machines à coudre qui sont dans cette salle-là, de manière libre sur son passe-temps. Et le soir où il s'y installe, débarque une jeune femme qui est sans doute une des plus populaires, Marine, elle s'appelle. Et ces deux personnages qui sont complètement opposés se retrouvent dans le même endroit sans savoir ce qu'ils y font. Il faut savoir que Marine, elle vient parce qu'elle a une passion. Elle aime le cosplay. Et elle, du coup, elle voulait construire et fabriquer un costume de cosplay. Alors, voyant que Gojo est plutôt doué de ses mains, elle va lui demander de coudre son costume de cosplay. Alors, là où ça devient un petit peu tendancieux, et c'est là où on va arriver le titre sexy, c'est que Marine est absolument fan d'un jeu une simulation de drague en ligne, un jeu érotique, avec des petites soubrettes, et qu'elle veut absolument incarner un des personnages issus du jeu. Gojo étant, à pas dire naïf, mais il a très très peu vu de femmes à côté, eh ben, ça va le stresser à mort et il va essayer de se mettre pile poil dans les conditions pour pouvoir faire le costume, mais rien de plus. Sachant que sa charmante, on va dire, copine du moment, va tout faire pour le mettre dans des positions le plus indélicates possible. imaginez quelqu'un qui n'a jamais approché une fille de près, prendre les mesures de poitrine, d'entrejambe et tout ce qui peut s'en suivre. Tu vois un petit peu le malaise dans lequel il peut être.
Je vois bien quel genre de délire il peut y avoir du coup dedans.
Alors, ça reste mignon, ça reste en dessous de la ceinture, hein, ne nous le cachons pas, puisqu'on a des plans culottes, on a des plans fesses, des plans boobs, ça reste un manga sexy dans la gamme, mais c'est quand même sympathique, c'est plutôt pas mal dessiné, et ouais, on passe un moment assez sympa, puisque du coup, là où c'est les deux antagonistes, enfin les deux, ouais, c'est pas les antagonistes, puisqu'ils s'en refoulent pas, mais les deux personnages que tout opposait au départ, c'est que Marine, pour elle, Gojo, c'est devenu son pote et elle se trimballe avec à son propre détriment. Parce que lui, en fait, dès qu'il voit d'autres personnes, il veut surtout pas qu'on sache qu'ils se connaissent, parce que sinon, ils vont se faire des idées et lui, ça va perturber sa petite vie. Et surtout, il veut pas que ça se sache. Et du coup, c'est assez fun, ça reste une lecture classique dans ce genre en fait, mais ça passe plutôt bien.
Écoute, oui, ça a l'air sympathique. Le côté peut-être un petit peu traditionnel, peut-être un petit peu couture. On parle souvent du monde du cosplay qui est pas forcément très représenté, etc. Là, ça peut être vachement intéressant. Puis si au passage en plus on voit quelques, comme on est habitué ces dernières années à voir des mangas, par exemple, sur la cuisine, sur les sciences, etc. Peut-être que là, il y a de vraies notions de couture qui sont abordées aussi, donc ça peut être tout aussi intéressant. Enfin, à partir du moment qu'il peut avoir un petit brin d'éducatif aussi dans le délire, pourquoi pas ?
Alors, je ne suis pas persuadé vraiment que le côté... Alors, il y a des termes de couture qui sont utilisés. Alors, moi, je suis un peu novice. Et là, pour l'instant, la couture, le seul truc qu'on voit, c'est comment prendre des mesures. Et je suis pas persuadé que si on me laissait prendre des mesures comme ça, je me prendrais pas une baffe en fait.
Si, on prend pas les mesures comme ça.
D'accord. Bon. Quoi qu'il en soit, on passe un bon moment et je pense que c'est l'essentiel sur les mangas dont on parle. Sexy Cosplay Doll, c'est de Shinichi Fukuda et c'est aux éditions Big Kana. Allez-y, hein, ça passe bien.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait une petite pause musicale maintenant ?
Bah ça me semble pas mal. Ouais.
Ça te semble pas mal ?
Oui.
Allez. Lesquels des deux ? Moi, je t'avais proposé soit Joan Jett, soit Billie Eilish. Qu'est-ce que tu préférais ?
Billie Eilish.
Billie Eilish ? Allez, on va voir. Billie Eilish avec Ocean Eyes. C'est une plutôt belle chanson, hein ?
Ah oui.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait ?
C'était la pub ? Ou c'était une musique indienne ?
Non, je me suis planté quelque part. Ah, je crois savoir. Toc. Est-ce que ça passe mieux ? Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean. You really know. De retour sur le 101.5 de Radio G. Billie Eilish, Ocean Eyes. Ocean Eyes. T'es perdu. Non, t'es. Mais...
Ah, pardon, j'étais perdu dans le feuilletage en fait, du manga dont on parlait juste avant.
Dans le manga qui s'effeuille. Ah, ça, est-ce que magnifique. Tu veux, toi, parler de ton livre ?
Eh bien, écoute, oui, parce que ça me semble important.
Où tu parles ton livre pendant 20 minutes, on fait une pause musicale. T'es prêt ? Non, quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'on peut dire beaucoup plus de choses sur ce livre-là et qu'on pourrait presque y faire une émission complète.
Une émission complète, c'est sûr, puisque du coup, le personnage dont on va parler, enfin la personne dont on va parler, a fait des émissions complètes. Et aussi parce que c'est couplé à un événement qui arrive tout bientôt.
Oh, mais dis-nous en plus.
C'est-à-dire que mercredi, oui. nous allons fêter un gros anniversaire. C'est les 30 ans de la Convention internationale des droits des enfants.
Oui.
Donc, 30 ans que les enfants ont des droits. Ouais. Et donc, c'est avec cet anniversaire tout proche que j'ai pu faire la lecture de L'Onde d'Olto. Donc, de D'Olto, Vidal et Jaraba. C'est aux éditions Seuil Delcourt.
Mais dis-moi, qui est D'Olto ?
Qui est Françoise D'Olto ? C'est une psychanalyste qui a beaucoup en fait, sensibilisé les gens en fait, au fonctionnement et, des enfants. Alors, compréhension, etc. Et
oui, quand tu dis fonctionnement, c'est pas on les ouvre pour voir comment ça marche à l'intérieur.
Non, pas forcément biologiquement, mais ou un peu si, mais psychologiquement surtout.
D'accord.
D'où son métier de psychanalyste pour enfants. Et en fait, cette BD va retracer un moment assez important où elle a été recrutée du moins, par France Inter pour faire une émission pour parler des enfants.
D'accord.
Pour parler des enfants et pour en fait conseiller les parents qui auraient des soucis avec leurs enfants avant que ces soucis n'engendrent de plus grands problèmes. Donc c'est sur ce postulat, après l'émission Professeur X qu'elle avait animée sur Europe 1, je crois.
Ça va être tendancieux quand même à chaque fois.
Non, rien de tendancieux. Toujours est-il que lors de cette émission, qui ne lui avait pas plu, elle parlait des enfants en fait, mais en direct, et toute la mise en scène, etc., ne lui plaisait pas. Or là, c'est donc Jacques Pradel qui va faire une émission avec elle sur France Inter, où là, il est question en fait de recevoir du courrier. De la part des parents. Courrier, pourquoi ? C'est une idée de Françoise D'Olto, parce que ça permet en fait aux parents de se poser d'abord, dans un premier temps, pour écrire ce qui se passe chez eux, et part du principe qu'en fait ça leur a donné le temps déjà de commencer à réfléchir au problème et donc de commencer à le résoudre.
C'est pas mal.
Voilà, c'est pas mal. Et tout ce courrier qu'elle a reçu en fait était trié par sa fille pour en fait dégager des thèmes qui était abordé lors de son émission qui s'appelait « Lorsque l'enfant paraît ».
D'accord.
Donc, c'est pour moi, avec une grosse sensibilité, que j'ai découvert en fait sa pensée et ses conseils, car la BD en fait retrace donc que des moments vécus par elle et sa fille. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
Non, mais alors du coup, de quoi ça parle exactement cet album ?
Eh bien, en fait, ça parle de ses conseils et surtout de l'émission qu'elle faisait avec Jacques Pradel, qu'elle enregistrait.
D'accord.
Donc, il y a des moments...
C'est des retranscriptions des émissions ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un morceau d'histoire vécue qu'on a dans les mains. C'est-à-dire qu'on a à la fois des moments de vie quotidienne.
D'accord.
Et qui sont entrecoupés de moments d'enregistrement de l'émission. Ces moments de vie quotidienne, on découvre en fait son lien avec son fils, avec sa fille, avec son mari, avec ses collègues. Et lors des moments d'émission, c'est le moment où en fait la mise en scène prend des petites envolées, où en fait le dessinateur va imager les conseils qui sont donnés par Françoise D'Olto dans l'émission.
D'accord.
Donc on découvre en fait un petit peu sa méthode de travail, sa façon de s'organiser, les liens complices qu'elle a avec ses enfants.
D'accord.
Et ce qui me fait penser d'ailleurs, c'est qu'à certains chapitres, en fait, c'est entrecoupé de photos de famille.
D'accord.
Et donc on découvre, en plus de sa pensée et de ses conseils, en fait on découvre aussi un peu de sa vie privée. Et en fait, on fait le lien entre les deux. C'est pour ça que cette BD, en fait, elle est aussi touchante. C'est qu'on sent vraiment qu'il y a une part, en fait, des Dolto dedans.
Ah bah tant mieux, vu qu'il y a son nom sur la couverture, quand même, ce serait dommage, sinon, mon cher ami.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a, un côté... Il y a un côté, je sais pas... Affectif. Alors, les conseils, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que, voilà, je suis en tant que professionnel dans le monde de l'animation.
Auprès des enfants?
Auprès des enfants, bien sûr. On voit des choses, on entend des choses, etc. Et souvent, via la question de réaction des enfants et de l'adulte face à l'enfant, lorsqu'il pose ou non problème. Et en fait, ce que j'ai découvert avec les conseils de Françoise Dolto dans cette BD, c'est le côté apaisant qu'elle procure.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, elle nous explique un petit peu au travers des yeux et de la compréhension des enfants comment la situation elle est vécue, finalement. Elle nous enjoint en fait à nous mettre à sa place, à comprendre les choses comme l'enfant le comprend. Et donc déjà, ça nous sort, nous, un petit peu la tête du guidon. Ça nous sort un petit peu de notre vécu et de notre ressenti d'adulte face à la situation. Et en fait, les conseils qu'elle procure sont très souvent très simples, finalement, et sont basés sur la communication. Et communication non violente, bien sûr. et en fait, il y a un côté où en fait, on se sent compris, on se sent entendu, bien que ce soit qu'une BD, et qui est en fait très apaisant, finalement. Moi, j'ai trouvé que ces conseils étaient très apaisants et nous fait voir en fait la réalité d'une autre manière, d'une manière plus complète, en fait, justement.
Je sais pas quoi dire de plus.
Moi, je sais quoi te dire de plus. Ce que je vais te dire de plus, c'est que après la lecture de cette BD, qui est d'ailleurs que le tome 1, pour mon plus grand plaisir. En fait, à la fin de la BD, déjà, on a quelques petites précisions en fait, sur qui était Françoise Dolto.
Un petit cahier documentaire.
Voilà. En fait, qui s'appelle « Faire les choses sérieuses en riant » par Catherine Dolto, donc sa fille. Donc, il nous parle un petit peu de sa mère, de comment elle voyait sa mère, etc. Et en fait, moi, ça m'a amené tout simplement à écouter Françoise Dolto, quelques-uns de ses enregistrements que j'ai pu trouver sur YouTube, et donc à compléter ma lecture de la BD par ses paroles. Et on voit à quel point, en fait, l'auteur de la BD a eu à cœur, en fait, de retranscrire mot pour mot les paroles de Françoise Dolto. La façon dont elle était dessinée, moi, je n'avais pas vu son visage avant. J'ai découvert son visage avec les photos qu'il y a dans la BD. Et en fait, le visage qui est dessiné déjà dans la BD est très ressemblant, déjà, même au niveau des émotions. Et en fait, les paroles, la voix, les intonations qui sont dans la BD, en fait, on les retrouve dans la réalité quand on écoute les enregistrements. Ça rajoute vraiment un côté très authentique à la BD. On a l'impression que c'est sous forme de BD, une photographie, en fait, de la réalité telle qu'elle a pu être.
Et un petit côté Mamie Nova, je trouve. Sur la.
Tu dis ça à cause des cheveux gris?
Non, mais enfin, puis après, ça fait un jeu de mots avec Radio Nova aussi, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Qui a non, aucun rapport, hein, non mais.
Pourquoi pas? Il y a le côté, oui, grand-mère aimante,
ouais,
rassurante.
Affectueuse
etc.
et rassurante, c'est ça qui. C'est ce côté-là qui. Je sais pas.
Très humain, finalement. Et ce côté très humain, il a vraiment bien été retranscrit dans la BD, en fait. Le dessin, il est simple, mais. Il a vraiment le chic de transmettre facilement les émotions. Et surtout quand après, bah voilà, on écoute Françoise Dolto pour de vrai, bah on se rend compte du travail de retranscription qui a été fait. Et c'est ce qui me fait attendre le tome 2 avec impatience.
Bah écoute, je vais l'attendre. Ouais, non, vas-y, je t'en...
Excuse-moi,
je ne voulais point te couper.
En tout cas, voilà. Enfin, ça peut être un très bon moyen pour moi, comme pour vous, du coup, de découvrir en fait Françoise Dolto, de découvrir sa pensée et la compréhension de l'enfant via une BD en plus. Donc, c'est assez ludique, c'est facile d'accès, puisque du coup, Françoise Dolto tenait toujours à ce que ses propos soient faciles à entendre et à comprendre, ce qui est très bien rehaussé en fait aussi par le dessin dans cette BD. Et c'est que du plus finalement pour mieux aborder le sujet de l'enfant, surtout à un moment où en fait on fête ses droits.
Et c'est une belle phrase.
Et où on sait que aujourd'hui, que ce soit en France ou plus, de manière plus flagrante ailleurs dans le monde, les droits des enfants sont pas toujours respectés et sont souvent même piétinés. Et du coup, voilà, c'est un bon moyen, je pense, de déjà de les faire connaître auprès des adultes et pourquoi pas en fait d'être un sujet de discussion auprès des enfants. Moi, je sais qu'en tout cas, je tiens un atelier avec les enfants sur justement la Convention des droits des enfants. Et c'est clairement un outil dont on va discuter ensemble. Et pour rappeler justement que samedi prochain, à la Sadelle, il y aura un événement dans le cadre de la Fête des droits des enfants.
Eh bien, écoute, où tu participes du coup ?
Oui, où j'y participe parce que la Sadelle et les Francas en fait, vont tenir des stands pour, dans le cadre de la Fête des droits des enfants. On est toujours dans la découverte, dans la discussion, etc. Parce que du coup, ce sont forcément des sujets à discussion.
Forcément. Alors, c'est un bon complément pour voir l'enfance et peut-être l'éducation de l'enfance de manière un peu plus positive. Donc, tu nous redonnes les références, s'il te plaît ?
Ah, donc les références, c'est L'Onde d'Olto, de D'Olto, Vidal et Jaraba, aux éditions Delcourt.
C'est parfait. Et si vous voulez continuer à avoir un petit peu plus d'informations sur les fameux droits de l'enfant, je vous renvoie sur YouTube. Alors, quand l'émission sera finie, bien sûr, écoutez-nous au moins encore pendant les 30 minutes qui nous restent. Mais il y a une très jolie vidéo qui a été faite par Amnesty France et qui est commentée par Benjamin Brio, alias oui. Nota Bene, qui éclaire beaucoup sur la situation des enfants dans le monde, sur ce que sont ces droits de l'enfant, comment c'est venu en place et comment c'est actuellement respecté ou pas, dans de nombreux pays. Allez-y, c'est hyper instructif.
Elle a justement été écoutée par les enfants vendredi dernier dans mon groupe. Donc c'était très intéressant en fait, de discuter avec eux à ce sujet, parce qu'ils ne connaissent pas tous leurs droits, en fait. Ils ne connaissent pas tous leurs droits. Rien que le fait... Enfin, il y en a qui vont de soi, mais avoir le droit d'avoir un nom, par exemple... Enfin, ça va de soi, tout le monde a un prénom, quoi. Je veux dire, mais voilà. M'empêche que c'est un droit qui, aujourd'hui... est important et doit être respecté.
C'est clair. Allez, on se fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Il est 19h33, vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. Et on se fait une petite pause musicale avec Carlos et le Tirili Pimpon.
L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi du vaudou, qui m'a fait un truc extra.
Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana ?
Tire du pimpon sur le chihuahua, tire du pimpon avec la tête, avec les bras, tire du pimpon à tout en l'air.
Bronzé comme une coco girl, je suis parti à Tokyo pour voir le soleil levant, c'est beau, c'est beau. Au pied du Fujiyama, j'ai rencontré Tatumi, la number one des geishas, qui m'a fait un truc inédit.
Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Tatumi ?
Tire les pimpons sur le chihuahua, tire les pimpons avec la tête, avec les bras, tire les pimpons. J'ai pris mon jean et babouche, et sur le Nil, je suis parti, m'la coulée douce. À l'hôtel des pyramides, j'ai rencontré Osiris, la Madonna des harems, qui m'a fait un truc pas triste.
Mon fils, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Osiris ?
Tire les pimpons sur le chihuahua, tire les pimpons avec la tête, avec les bras, tire les pimpons. Comme il faisait chaud, dis donc, je suis
passer voir Sophie. C'est bon, c'est bon. Sous un baobab géant, elle m'a fait l'eucalyptus, un truc qu'aiment les éléphants. Mais là, je t'en dis pas plus.
Pas de pitié pour les croissants.
C'est vraiment une super transition que tu nous as trouvé.
Oui, Carlos Dolto juste derrière, c'est parfait.
Eh ben oui, mais voilà, alors pour ceux qui ne savaient pas, hein, le monsieur qui chantait là, c'est le fils de la madame dont on parlait il y a deux minutes.
Oui.
Oui.
Avec ses célèbres chemises à fleurs.
Ah ouais, comme quoi. Hein.
Ah ouais, il présentait mes dessins animés quand j'étais petit, j'étais content.
Mais oui, c'était trop bon.
C'était un gros bonhomme rigolo.
Allez, mais c'était top. Je sais pas quoi dire de plus, moi.
Bah, que tu vas enchaîner avec une autre BD, par exemple.
Ouais, alors j'avais plein de chansons à mettre, en fait. J'avais plein de musique. C'est pas mal aussi.
Oui, non, c'est bien. Mais moi, j'aime bien quand on parle. Surtout qu'en plus, apparemment, il y a une BD plutôt sympa que t'as. Et puis, l'idée que tu aies pu faire descendre un petit peu ta pile à lire, c'est quand même toujours très intéressant. Il faut savoir que la pile à lire de Sébastien a sa propre dimension de réalité. Hein.
elle est basée sur une échelle logarithmique, ce qui fait que quand tu penses que t'en as réduit, en fait, elle grandit.
C'est ça.
C'est un truc assez particulier.
Elle est plus grande à l'intérieur.
C'est ça, c'est une pile à lire dimensionnelle. C'est
triphasé.
Une par 10. Hein.
Une par 10. Excellent.
Oh là, mon Dieu.
Alors, on a fait le jeu de mots de geek, c'est vraiment magnifique.
Ah non, mais c'est, je voulais passer plein de trucs musicaux, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de temps. Alors, Pikni, douce et toi, lent, c'est celui-là. Ah, on va commencer.
Papa, quand même.
Tu fais des bisous à ma fille d'ailleurs. Alors, si je te dis, je veux manger ton pancréas. Non, mais reviens, pourquoi tu fuis? C'est le titre de l'album que je vais vous présenter. Alors, si vous vous dites, tiens, c'est original comme nom, vous savez que moi, j'aime beaucoup les trucs qui m'attirent par l'originalité. Ce bouquin, je l'ai pris principalement parce que le titre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux manger ton pancréas. Pour moi, je me suis dit, tiens, ça y est, c'est la biographie d'Hannibal Lecter. Eh ben, non, on en est super loin. La couve en est une preuve. On a une jeune fille qui est visiblement une étudiante sur un parapet, une rambarde, avec des cerisiers en fleurs derrière et un jeune garçon en train de lire un truc.
C'est très romantique pour un truc menu qu'on mange à base de pancréas.
Alors, faut savoir que c'est basé sur un roman, le roman de Yuro Sumino, qui est aussi à l'origine en fait du scénario du livre, et c'est dessiné par Idumi Kirihara, et c'est aux éditions Pika. Alors non, ça parle pas de gore, ça parle pas de comment dire, de cannibalisme. Hein, c'est ça que je cherchais. Ben non. Ça parle. Alors effectivement, le fait divers commence là-dessus. Puisqu'il faut savoir qu'il y a des gens, autrefois, les gens qui souffraient d'une maladie touchant certains organes avaient comme croyance le fait que si tu mangeais les organes sains d'autres personnes, ça pouvait t'aider à soigner tes propres organes. Non, c'était une croyance. Comme toute une époque en France, on faisait des trous dans la tête des gens pour les libérer de leur douleur. C'est une façon de penser la médecine à une époque un petit peu reculée, je te l'accorde. Et là, en fait, on suit une jeune fille qui va un jour déclarer ça à un de ses camarades de classe alors qu'ils sont en train de ranger la bibliothèque. Il faut savoir que ce jeune homme a, quelques semaines plus tôt, découvert un livre dans l'hôpital alors qu'il venait de se faire opérer de l'appendicite. Et ce livre, qu'il pensait être un roman, en fait, est écrit à la main. C'est un journal où une jeune fille explique qu'elle a une maladie incurable qui touche son pancréas et qu'elle va bientôt mourir. Il faut savoir que c'est cette jeune fille, cette camarade de classe, qui va tenir cette espèce de journal de vie avant la mort, où elle raconte tout ce qu'elle va vivre et ses envies, en essayant d'aborder cette mort future de la manière la plus bienveillante possible. Avec peut-être un petit peu trop de bienveillance, hein, puisque du coup, elle va embarquer notre jeune garçon, alors qui est considéré comme étant monsieur transparent par tous ses autres camarades de classe, puisque c'est un jeune homme, à l'instar hein, de Gojo de Sex Idol, qui est un petit peu transparent, puisque les autres personnes ne l'intéressent absolument pas. Donc il ne voit pas pourquoi il essaierait de faire des liens ou de lier connaissance avec d'autres personnes, puisque les autres, ils s'en foutent. Donc il est très bien tout seul. Et cette héroïne va un petit peu le bousculer. Et du coup, venir... perturber cette espèce de non-vie ou de vie pépère tranquille, comme vous le souhaitez, qu'il vivait sans jamais se lier aux gens. Et le fait qu'elle l'oblige à lui prêter attention va petit à petit le transformer. Elle va commencer à rentrer, à bousculer un petit peu ses habitudes, de façon à ce qu'il devienne un petit peu plus, ouvert aux gens. Et en fait, il le fait juste par politesse au départ. Parce qu'il va aller manger une glace avec elle, ils vont aller dans un restaurant. Alors, elle a un problème avec la bouffe, hein, la jeune fille. Elle adore manger. Hein. Dès qu'elle peut aller manger dans un resto à volonté avec ce jeune homme, ils y vont et elle se baffre une certaine compensation, peut-être, à un moment, de la situation. Mais du coup, c'est hyper agréable de voir cette espèce de métamorphose, et c'est fait de manière suffisamment subtile pour voir ce jeune garçon, monsieur transparent, en fait, s'ouvrir aux autres. Le fait que les rumeurs que ces rencontres avec cette jeune fille vont susciter auprès des autres camarades de classe vont l'affecter. Si tu t'en fous des autres, ce qu'ils disent ne devrait pas te toucher. Et du coup, lui, ça va l'impacter. Et du coup, ça va petit à petit l'ouvrir aux gens, l'ouvrir à l'humanité, tout en perdant peut-être cette jeune fille qui, normalement, hein, si tout se passe comme annoncé dès le début, elle va mourir. Et il faut savoir qu'il est le seul, en fait, à le savoir. Ooh. C'est ça aussi ce qui lie ces deux personnages, c'est qu'il est le seul, hormis sa famille, à savoir qu'elle va mourir.
C'est horrible, ça veut dire que lors de ce tome, on va s'attacher à un personnage qu'on sait déjà qu'il va mourir.
Alors, tu vas t'y attacher et en plus, tu vas le trouver à la fois agréable et à la fois hyper perturbant. Parce que pour elle, mourir, c'est pas grave. Elle l'énonce comme si c'était une vérité et qu'elle s'y était absolument faite. Et du coup, ça rend le personnage assez perturbant. Mais du coup, c'est ultra, ultra sympa. Alors, faut savoir que c'est une série qui va être ultra courte puisqu'il n'y a que 2 tomes.
Ah!
Donc c'est pas un truc qui va vous encombrer énormément sur vos étagères, mais du coup c'est vraiment le truc est sympa. Alors moi ça me donne envie de découvrir en plus le roman. Alors je sais pas si j'ai pas regardé encore s'il avait été traduit en français, mais du coup c'est je trouve ça agréable.
En plus, en deux tomes, ça t'en revient pas trop cher la série, ça peut être un petit moment sympa quoi.
Ouais.
T'emmènes les deux dans ton sac, puis hop, basta.
C'est ça. Alors, ça te prend un petit peu de temps, parce que les tomes sont quand même assez épais. Mais c'est sympa. Alors, le dessin est pas ouf, hein. Je veux pas en dire du mal. Mais ça reste un dessin qui est assez classique. Mais quand même tout à fait agréable. Alors, on est dans un dessin qui va se rapprocher un petit peu des dessins un peu. Alors, pas, j'allais dire shoujo, mais non, pas du tout. Mais le dessin, les traits sont. Les ancrages sont assez prononcés. Sans être trop épais, et du coup ça donne un côté assez clair et extrêmement lisible, et du coup ça rend la lecture ultra agréable. Alors je ne sais pas comment ça finit, vous verrez pas, c'est pas un spoil puisque c'est un petit peu comme ça que commence la première page, mais du coup vous voyez le héros en train de lire gentiment dans sa chambre pendant que se déroule l'enterrement de sa camarade de classe. Ça c'est le début. Donc je ne spoile pas.
Un ignoble.
De toute façon, on sait qu'elle va mourir.
Grosse ambiance ce soir sur les ondes.
Ouais, mais ça reste ultra agréable de voir quelqu'un qui sait qu'elle va mourir et pour qui c'est normal. Alors que nous, on fait tout un petit peu dans nos vies de tous les jours pour se dire bah, peut-être le plus tard possible. Elle profite de chaque instant de sa vie, un petit peu comme si c'était le dernier, et elle va inviter ce jeune garçon à faire de même au fur et à mesure de l'éloge du manga, et du coup c'est vachement sympa. C'est un truc que j'étais un peu surpris de le découvrir, et c'est vraiment sympa. Je vous redonne les références, Je veux manger ton pancréas, oui, si vous êtes en train de manger à table, je suis désolé, hein. Mais c'est une œuvre originale de Yoru Sumino, et c'est un dessin d'Idumi Kirihara, et c'est aux éditions Pika, et c'est super sympa, et c'est super tendre, enfin c'est cool, moi je trouve ça sympa.
Oui, des fèves au beurre.
Des fèves au beurre. Allez, on se refait une petite pause musicale.
Oui.
Allez, juste avant. Allez, on va se faire un truc assez sympa. Je sais pas si ça va partir comme ça tout de suite. Allez.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Contrôle plus, il a montré son ventre.
Ouh! Allez, vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. Non, ce n'est pas une émission musicale, vous êtes bien sur la case de Seb. On parle toujours bande dessinée, mais on avait envie de faire un peu de musique qui envoie du steak. Et c'était I Still Standing d'Elton John.
Et il est encore debout?
Eh oui, c'est vrai en plus. Allez, je vais m'asseoir pour la fin de l'émission. On va parler d'une BD que je n'avais pas vue, qui ne m'aurait sans doute pas attiré, hein, soyons honnêtes, puisque la tranche est tout ce qui est de plus sobre. La couverture est un petit peu terne. Mais du coup, il suffit juste de lire le titre pour que je me fasse... Ah !
J'ai eu la même sensation.
Ouais. C'est le Detection Club. Alors, c'est de Jean Aramba, aux éditions d'Argo. Est-ce que tu sais ce que c'était le Detection Club ?
C'est un truc qui réunit des radiesthésistes ?
Du tout.
Ah bah d'accord.
Non. Le Detection Club, c'était une espèce de club fermé, en fait, d'auteurs de romans policiers anglais, qui a fini par accueillir un Américain. Il faut savoir que le Detection Club était composé de J.K. Chesterton, de John Dixon Carr, de fameux Américain, du père Ronald Knox, de la baronne Emma Orczy, du major A.E.W. Mazen et de Dorothy L. Sawyers. Mais sa membre la plus célèbre, c'était sans doute celle que l'on connaît tous.
Agatha Christie.
Agatha Christie. Il faut savoir que ce club, en fait, avait un petit peu, à l'instar de Loubapo ou l'ouvroir...
Loulipo.
Le Lipo, c'est l'ouvroir littéraire potentiel, et Loubapo, c'est la même chose en version BD.
Ah.
Eh oui, ça existe. Composer en fait les 10 commandements en fait du roman policier, et s'est amusé au fil du temps en fait à essayer de les enfreindre. Alors, un petit florilège où on va peut-être les lire. Allez, on se les lit chacun les 10 commandements. Moi, je fais le premier. Maintenant. Allez, le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées.
Le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire.
L'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même dans le cas d'un seul passage secret, il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif était prévisible.
Des poisons inconnus ne peuvent être utilisés ni aucune machine, de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion. Le fameux Deus Ex Machina ?
Ouais. Alors la cinquième qui peut peut-être choquer certains d'entre vous, aucun chinois ne doit figurer dans l'histoire. Eh ben ouais.
Pourquoi pas ? Aucun accident ne doit aider le détective, de même on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite. Autant pour moi, ça a l'air d'être plus ça, le Deus Ex Machina.
Le détective ne doit pas commettre lui-même le crime.
Oh. Le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire.
Les observateurs ont le droit de trier et de tirer et présenter leurs propres conclusions. Et la dernière ?
Il ne doit pas être fait usage de jumeaux ni d'habiles déguisements.
Eh bien, il faut savoir que toutes ces règles, elles sont bafouées dans cette BD qui parle justement des règles du roman policier classique. De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle du fameux Detection Club qui, un jour, va être invité par, j'ai perdu son nom, un milliardaire excentrique sur une île, le monsieur Roderick Gill, et il va leur présenter une machine fabuleuse, un robot prénommé Eric. Ce robot est magique, et à la fois, pour moi qui suis amateur de romans policiers, complètement dramatique. Il suffit de lui annoncer une situation, différents éléments, et il est capable de donner, comme ça, la solution du roman, et d'indiquer « le meurtrier, c'est lui ».
Mais du coup, ça nique toute l'idée du roman.
Bah ouais, ça n'a aucun intérêt selon moi. Mais pour Roderick Gill, c'est le summum. Bientôt, les robots pourront dominer le monde, faire toutes les choses, satisfaire le moindre de nos besoins, avant même que l'on en ait envie, parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Et il est là pour présenter en fait ce robot à ses écrivains, leur montrer un petit peu que leur boulot ne va plus servir à rien, de manière un petit peu... ironique, méchante. Et c'est là où le destin s'acharne. C'est que Roderick Gill va mourir. Et quand on interroge le robot, il dit « Oui, c'est moi qui l'ai tué. »
Quoi ?
Eh bien voilà, une enquête, un huis clos à la Dyptinègre, hein, une île perdue, une espèce de grand manoir, plusieurs meurtriers potentiels, et une BD qui va être extrêmement originale, extrêmement fun, extrêmement habile hein, dans son traitement, puisque le but est quand même de parodier un petit peu tous ces romans policiers. Hein. C'est d'ailleurs une magnifique page intérieure qui représente un petit peu beaucoup les romans en fait des détectives qui sont présents, un truc qui est vraiment hyper sympa. Alors faut savoir que les auteurs c'est un petit peu les comment dire, les fans du pastiche. L'auteur, John Arambat, avait déjà sorti Operation Copperhead, qui était une parodie en fait de romans d'espionnage des années 50, et du coup c'était vachement sympa. Et là il revisite en fait le roman policier en jouant avec les règles édictées par le Detection Club, et ça rend super sympa. Les dialogues entre Chesterton et Agatha Christie sont absolument rigolos, c'est bien écrit, c'est, le dessin est assez sympa. Alors moi j'aime pas trop le côté couleur un peu
criarde.
Non, elles sont pas criardes. Justement, on est dans les chaque personnage a vraiment sa teinte de couleur avec quelques déclinaisons. Ça rend les choses un petit peu, je vais pas dire monochrome parce que c'est pas le cas non plus. J'ai pas les bons termes, mais du coup c'est assez particulier. Le graphisme, on n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans le, c'est un petit peu, c'est différent, c'est assez particulier et moi ça passe ultra bien. Si on aime les romans policiers, on va savourer ça avec une grande tendresse, tout en continuant à essayer de trouver qui est le coupable, et c'est vachement bien. Moi je vous le conseille, ça a été une bonne surprise, les dialogues sont savoureux, le dessin passe ultra bien et c'est vraiment super. T'en penses quoi, toi ?
Ah bah moi je suis tenté. Là, j'aime bien les tout ce qui était meurtre d'Agatha Christie, Sherlock Holmes, tout ça. Moi j'aime bien. Et puis en plus quand ça se passe en huis clos, il y a toujours la part belle qui est faite au dialogue et qui est absolument géniale.
Et là donc, ça passe ultra bien.
Donc j'avoue être très curieux.
Là moi ça, je vois ça adapté en film d'ici quelques années, au même titre que les Dix Ténèbres ont pu être adaptés. Alors ce sera peut-être pas réédité. Un certain nombre de fois.
Sous la forme d'un épisode de Doctor Who.
Ah, ça peut, pourquoi pas.
Comme bah, ils l'ont fait pour l'Orient Express, donc pourquoi pas.
Allez.
Sauvez-vous tous !
Raté. C'est celle-là. That's all, folks. Allez, les 19h58, c'est l'heure pour nous de rendre le micro et de laisser à notre chère bande de camarades qui sont gonflés, mais pas gonflants, le gros bazar qui vont prendre le micro dans quelques instants.
Ouais,
ça va ?
Coucou, Seb ?
Ouais !
Allez. Bon moment, c'était une bonne émission. Hein.
C'est vrai ?
Ouais.
Oh, bah, c'est cool.
Deux, en fait, faut pas de plus.
Bon, on va virer les autres. Non, c'est un bon passage.
On les a réduits à l'état de parfum.
On les a parfumisés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On parlera une émission un peu spéciale puisqu'on parlera du festival en GBD qui arrive très très prochainement. Allez, surtout continuez de lire, ça rend intelligent, il paraît.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku-oni! Ore wa naru!
Batman! Nous, un petit schtoum!
Batman! Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de mort! Batman!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G, 101.5 FM.
À présent, la suite.